Deuxième partie, chapitre 14. Quand m'eut quitté la jeune Picarde, qu'aurait pu sculpter à son porche l'imagier de Saint-André-des-Champs, Françoise m'apporta une lettre qui me remplit de joie, car elle était de Madame de Stermaria, laquelle acceptait à dîner. De Madame de Stermaria, c'est-à-dire, pour moi, plus que de la Madame de Stermaria réelle, de celle à qui j'avais pensé toute la journée avant l'arrivée d'Albertine. C'est la terrible tromperie de l'amour qu'il commence par nous faire jouer avec une femme, non du monde extérieur, mais avec une poupée intérieure à notre cerveau, la seule d'ailleurs que nous ayons toujours à notre disposition, la seule que nous posséderons, que l'arbitraire du souvenir, presque aussi absolu que celui de l'imagination, peut avoir fait aussi différente de la femme réelle que du Balbec réel avait été pour moi le Balbec rêvé. Création factice à laquelle peu à peu, pour notre souffrance, nous forcerons la femme réelle à ressembler. Albertine m'avait tant retardé que la comédie venait de finir quand j'arrivai chez Madame de Villeparisis. Et peu désireux de prendre à revers le flot des invités qui s'écoulaient en commentant la grande nouvelle, la séparation qu'on disait déjà accomplie entre le duc et la duchesse de Guermantes, je m'étais, en attendant de pouvoir saluer la maîtresse de maison, assis sur une bergère vide dans le deuxième salon, quand, du premier, où sans doute elle avait été assise tout à fait au premier rang de chaises, je vis déboucher, majestueuse, ample et haute dans une longue robe de satin jaune à laquelle étaient attachés en relief d'énormes pavots noirs, la duchesse. Sa vue ne me causait plus aucun trouble. Un certain jour, m'imposant les mains sur le front, comme c'était son habitude quand elle avait peur de me faire de la peine, en me disant « Ne continue pas tes sorties pour rencontrer Madame de Guermantes, tu es la fable de la maison. D'ailleurs, vois comme ta grand-mère est souffrante. Tu as vraiment des choses plus sérieuses à faire que de te poster sur le chemin d'une femme qui se moque de toi. » D'un seul coup, comme un hypnotiseur qui vous fait revenir du lointain pays où vous vous imaginiez être et vous rouvre les yeux, ou comme les médecins qui, vous rappelant au sentiment du devoir et de la réalité, vous guérit d'un mal imaginaire dans lequel vous vous complaisiez, ma mère m'avait réveillée d'un trop long songe. La journée qui avait suivi avait été consacrée à dire un dernier adieu à ce mal auquel je renonçais. J'avais chanté des heures de suite en pleurant l'adieu de Schubert. Adieu, des voix étranges, t'appelles loin de moi, céleste sœur des anges. Et puis, ça avait été fini. J'avais cessé mes sorties du matin, et si facilement que je dirais alors le pronostic, qu'on verra se trouver faux, plus tard, que je m'habituerai aisément dans le cours de ma vie à ne plus voir une femme. Et quand, ensuite, Françoise m'eut raconté que Jupien, désireux de s'agrandir, cherchait une boutique dans le quartier, désireux de lui en trouver une, tout heureux aussi en flânant dans la rue, que déjà de mon lit j'entendais crier lumineusement comme une plage, de voir sous le rideau de fer levé des crèmeries les petites laitières à manches blanches, j'avais pu recommencer ces sorties. Fort librement, du reste, car j'avais conscience de ne plus les faire dans le but de voir Madame de Guermantes. Telle une femme qui prend des précautions infinies tant qu'elle a un amant, du jour qu'elle a rompu avec lui, laisse traîner ses lettres, au risque de découvrir à son mari le secret d'une faute dont elle a fini de s'effrayer en même temps que de la commettre. Ce qui me faisait de la peine, c'était d'apprendre que presque toutes les maisons étaient habitées par des gens malheureux. Ici, la femme pleurait sans cesse parce que son mari la trompait. Là, c'était l'inverse. Ailleurs, une mère travailleuse, rouée de coups par un fils ivrogne, tâchait de cacher sa souffrance aux yeux des voisins. Toute une moitié de l'humanité pleurait. Et quand je la connus, je vis qu'elle était si exaspérante que je me demandais si ce n'était pas le mari ou la femme adultère, qu'il était seulement parce que le bonheur légitime leur avait été refusé, et se montraient charmants et loyaux envers tout autre que leur femme ou leur mari qui avait raison. Bientôt, je n'avais même plus eu la raison d'être utile à Jupien pour continuer mes pérégrinations matinales. Car on apprit que l'ébéniste de notre cour, dont les ateliers n'étaient séparés de la boutique de Jupien que par une cloison fort mince, allait recevoir congé du gérant parce qu'il frappait des coups trop bruyants. Jupien ne pouvait espérer mieux. Les ateliers avaient un sous-sol où mettre les boiseries et qui communiquait avec nos caves. Jupien y mettrait son charbon, ferait abattre la cloison et aurait une seule et vaste boutique. Mais même sans l'amusement de chercher pour lui, j'avais continué à sortir avant déjeuner. Même comme Jupien, trouvant le prix que M. de Guermantes faisait très élevé, laissait visiter pour que, découragé de ne pas trouver de locataire, le duc se résignât à lui faire une diminution. Françoise, ayant remarqué que, même après l'heure où on ne visitait pas, le concierge laissait, contre la porte de la boutique à louer, flaira un piège dressé par le concierge pour attirer la fiancée du valet de pied des Guermantes. Ils y trouveraient une retraite d'amour, et ensuite les surprendre. Quoi qu'il en fût, bien que n'ayant plus à chercher une boutique pour Jupien, je continuais à sortir avant le déjeuner. Souvent, dans ces sorties, je rencontrais M. de Norpois. Il arrivait que, causant avec un collègue, il jetait sur moi des regards qui, après m'avoir entièrement examiné, se détournaient vers son interlocuteur sans m'avoir plus souri ni salué que s'il ne m'avait pas connu du tout. Car chez ces importants diplomates, regarder d'une certaine manière n'a pas pour but de vous faire savoir qu'ils vous ont vu, mais qu'ils ne vous ont pas vu et qu'ils ont à parler avec leurs collègues de quelques questions sérieuses. Une grande femme que je croisais souvent près de la maison était moins discrète avec moi, car bien que je ne la connusse pas, elle se retournait vers moi, m'attendait inutilement, devant les vitrines des marchands, me souriait comme si elle allait m'embrasser, faisait le geste de s'abandonner. Elle reprenait un air glacial à mon égard si elle rencontrait quelqu'un qu'elle connut. Depuis longtemps déjà, dans ses courses du matin, selon ce que j'avais à faire, fût-ce acheter le plus insignifiant journal, je choisissais le chemin le plus direct, sans regret s'il était en dehors du parcours habituel que suivaient les promenades de la duchesse, et, s'il en faisait au contraire partie, sans scrupule et sans dissimulation, parce qu'il ne me paraissait plus le chemin défendu où j'arrachais à une ingrate la faveur de la voir malgré elle. Mais je n'avais pas songé que ma guérison, en me donnant à l'égard de Madame de Guermantes une attitude normale, accomplirait parallèlement la même œuvre en ce qui la concernait et rendrait possible une amabilité, une amitié qui ne m'importait plus. Jusque-là, les efforts du monde entier ligués pour me rapprocher d'elle eussent expiré devant le mauvais sort que jette un amour malheureux. Des fées plus puissantes que les hommes ont décrété que, dans ces cas-là, rien ne pourra servir jusqu'au jour où nous aurons dit sincèrement dans notre cœur la parole « Je n'aime plus ». J'en avais voulu à Saint-Loup de ne m'avoir pas mené chez sa tante, mais pas plus que n'importe qui, il n'était capable de briser un enchantement. Tandis que j'aimais Madame de Guermantes, les marques de gentillesse que je recevais des autres, les compliments, me faisaient de la peine, non seulement parce que cela ne venait pas d'elle, mais parce qu'elle ne les apprenait pas. Or, les eût-elle su que cela n'eût été d'aucune utilité? Même dans les détails d'une affection, une absence, le refus d'un dîner, une rigueur involontaire, inconsciente, servent plus que tous les cosmétiques et les plus beaux habits. Il y aurait des parvenus si on enseignait dans ce sens l'art de parvenir. Au moment où elle traversait le salon où j'étais assis, la pensée pleine du souvenir des amis que je ne connaissais pas et qu'elle allait peut-être retrouver tout à l'heure dans une autre soirée, Madame de Guermantes m'aperçut sur sa bergère, véritable indifférent qui ne cherchait qu'à être aimable, alors que, tandis que j'aimais, j'avais tant essayé de prendre, sans y réussir, l'air d'indifférence. Elle obliqua, vint à moi, et retrouvant le sourire du soir de l'opéra comique, et que le sentiment pénible d'être aimé par quelqu'un qu'elle n'aimait pas n'effaçait plus. « Non, ne vous dérangez pas, vous permettez que je m'asseye un instant à côté de vous ?» me dit-elle en relevant gracieusement son immense jupe, qui sans cela eût occupé la bergère dans son entier. Plus grande que moi, et accrue encore de tout le volume de sa robe, j'étais presque effleurée par son admirable bras nu, autour duquel un duvet imperceptible et innombrable faisait fumer perpétuellement comme une vapeur dorée, et par la torsade blonde de ses cheveux qui m'envoyaient leur odeur. N'ayant guère de place, elle ne pouvait se tourner facilement vers moi, et, obligée de regarder plutôt devant elle que de mon côté, prenait une expression rêveuse et douce, comme dans un portrait. « Avez-vous des nouvelles de Robert ?» me dit-elle. Madame de Villeparisis passa à ce moment-là. « Eh bien, vous arrivez à une jolie heure, monsieur, pour une fois qu'on vous voit. » Et remarquant que je parlais avec sa nièce, supposant peut-être que nous étions plus liés qu'elle ne savait, « Mais je ne veux pas déranger votre conversation avec Oriane, » ajouta-t-elle. Car les bons offices de l'entremetteuse font partie des devoirs d'une maîtresse de maison. « Vous ne voulez pas venir dîner mercredi avec elle ?» C'était le jour où je devais dîner avec Madame de Stermaria. Je refusais. « Et samedi ?» Ma mère, revenant le samedi ou le dimanche, c'eût été peu gentil de ne pas rester tous les soirs à dîner avec elle. Je refusais donc encore. « Ah, vous n'êtes pas un homme facile à avoir chez soi. »« Pourquoi ne venez-vous jamais me voir ?» me dit Madame de Guermantes, quand Madame de Villeparisis se fut éloignée pour féliciter les artistes et remettre à la diva un bouquet de roses dont la main qu'il offrait faisait seule tout le prix, car il n'avait coûté que 20 francs. C'était du reste son prix maximum quand on n'avait chanté qu'une fois. Celles qui prêtaient leur concours à toutes les matinées et soirées recevaient des roses peintes par la marquise. « C'est ennuyeux de ne jamais se voir que chez les autres. Puisque vous ne voulez pas dîner avec moi chez ma tante, pourquoi ne viendriez-vous pas dîner chez moi ?» Certaines personnes, étant restées le plus longtemps possible sous des prétextes quelconques, mais qui sortaient enfin, voyant la duchesse assise pour causer avec un jeune homme, sur un meuble si étroit qu'on n'y pouvait tenir que deux, pensèrent qu'on les avait mal renseignés, que c'était la duchesse, non le duc, qui demandait la séparation, à cause de moi. Puis elles se hâtèrent de répandre cette nouvelle. J'étais plus à même que personne d'en connaître la fausseté. Mais j'étais surpris que, dans ces périodes difficiles où s'effectue une séparation non encore consommée, la duchesse, au lieu de s'isoler, invita justement quelqu'un qu'elle connaissait aussi peu. J'eus le soupçon que le duc avait été seul à ne pas vouloir qu'elle me reçût, et que, maintenant qu'il la quittait, elle ne voyait plus d'obstacle à s'entourer des gens qui lui plaisaient. 2 minutes auparavant, j'eusse été stupéfait si on m'avait dit que Madame de Guermantes allait me demander d'aller la voir, encore plus de venir dîner. J'avais beau savoir que le salon Guermantes ne pouvait pas présenter les particularités que j'avais extraites de ce nom, le fait qu'il m'avait été interdit d'y pénétrer, en m'obligeant à lui donner le même genre d'existence qu'au salon dont nous avons lu la description dans un roman ou vu l'image dans un rêve, me le faisait, même quand j'étais certain qu'il était pareil à tous les autres, imaginer tout différent. Entre moi et lui, il y avait la barrière où finit le réel. Dîner chez les Guermantes, c'était comme entreprendre un voyage longtemps désiré, faire passer un désir de ma tête devant mes yeux et lier connaissance avec un songe. Du moins, eussé-je pu croire qu'il s'agissait d'un de ces dîners auxquels les maîtres de maison invitent quelqu'un en disant « Venez, il n'y aura absolument que nous !» feignant d'attribuer aux parias la crainte qu'ils éprouvent de le voir mêlé à leurs autres amis, et cherchant même à transformer en un enviable privilège réservé aux seuls intimes la quarantaine de l'exclu, malgré lui sauvage et favorisé. Je sentis, au contraire, que Madame de Guermantes avait le désir de me faire goûter à ce qu'elle avait de plus agréable quand elle me dit, mettant d'ailleurs devant mes yeux comme la beauté violâtre d'une arrivée chez la tante de Fabrice et le miracle d'une présentation au comte Mosca. « Vendredi, vous ne seriez pas libre, en petit comité? Ce serait gentil. Il y aura la princesse de Parme, qui est charmante. D'abord, je ne vous inviterai pas si ce n'était pas pour rencontrer des gens agréables. » Déserté dans les milieux mondains intermédiaires qui sont livrés à un mouvement perpétuel d'ascension, la famille joue au contraire un rôle important dans les milieux immobiles, comme la petite bourgeoisie et comme l'aristocratie princière, qui ne peut chercher à s'élever, puisque, au-dessus d'elle, à son point de vue spécial, il n'y a rien. L'amitié que me témoignaient la tante Villeparisis et Robert avait peut-être fait de moi, pour Madame de Guermantes et ses amis, vivant toujours sur eux-mêmes et dans une même coterie, l'objet d'une attention curieuse que je ne soupçonnais pas. Elle avait de ses parents-là une connaissance familiale, quotidienne, vulgaire, fort différente de ce que nous imaginons, et dans laquelle, si nous nous y trouvons compris, loin que nos actions en soient expulsées, comme le grain de poussière de l'œil ou la goutte d'eau de la trachée artère, elles peuvent rester gravées, être commentées, racontées encore des années après que nous les avons oubliées nous-mêmes, dans le palais où nous sommes étonnés de les retrouver, comme une lettre de nous dans une précieuse collection d'autographes. De simples gens élégants peuvent défendre leurs portes trop envahies, mais celle des Guermantes ne l'était pas. Un étranger n'avait presque jamais l'occasion de passer devant elle. Pour une fois que la duchesse s'en voyait désigner un, elle ne songeait pas à se préoccuper de la valeur mondaine qu'il apporterait, puisque c'était chose qu'elle conférait et ne pouvait recevoir. Elle ne pensait qu'à ses qualités réelles. Madame de Villeparisis et Saint-Loup lui avaient dit que j'en possédais. Et sans doute ne les eût-elle pas crues si elle n'avait remarqué qu'il ne pouvait jamais arriver à me faire venir quand il le voulait. Donc, que je ne tenais pas au monde. Ce qui semblait à la duchesse le signe qu'un étranger faisait partie des gens agréables. Il fallait voir, parlant de femmes qu'elle n'aimait guère, comme elle changeait de visage aussitôt si on nommait, à propos de l'une, par exemple sa belle-sœur, « Oh, elle est charmante !» disait-elle d'un air de finesse et de certitude. La seule raison qu'elle en donna était que cette dame avait refusé d'être présentée à la marquise de Chaussegros et à la princesse de Silistrie. Elle n'ajoutait pas que cette dame avait refusé de lui être présentée à elle-même, duchesse de Guermantes. Cela avait eu lieu pourtant, et depuis ce jour, l'esprit de la duchesse travaillait sur ce qui pouvait bien se passer chez la dame si difficile à connaître. Elle mourait d'envie d'être reçue chez elle. Les gens du monde ont tellement l'habitude qu'on les recherche que qui les fuit leur semble un phénix et accapare leur attention. Le motif véritable de m'inviter était-il, dans l'esprit de Madame de Guermantes, depuis que je ne l'aimais plus, que je ne recherchais pas ses parents, quoiqu'étant recherché d'eux? Je ne sais. En tout cas, s'étant décidée à m'inviter, elle voulait me faire les honneurs de ce qu'elle avait de meilleur chez elle, et éloigner ceux de ses amis qui auraient pu m'empêcher de revenir, ceux qu'elle savait ennuyeux. Je n'avais pas su à quoi attribuer le changement de route de la duchesse quand je l'avais vue dévier de sa marche stellaire, venir s'asseoir à côté de moi et m'inviter à dîner. Effet de cause ignorée, faute de sens spécial qui nous renseigne à cet égard. Nous nous figurons, les gens que nous connaissons à peine, comme moi la duchesse, comme ne pensant à nous que dans les rares moments où ils nous voient. Or, cet oubli idéal où nous nous figurons qu'ils nous tiennent est absolument arbitraire, de sorte que, pendant que dans le silence de la solitude, pareil à celui d'une belle nuit, nous nous imaginons les différentes reines de la société poursuivant leur route dans le ciel à une distance infinie, nous ne pouvons nous défendre d'un sursaut de malaise ou de plaisir s'ils nous tombent de là-haut, comme un aérolithe portant gravé notre nom, que nous croyons inconnu dans Vénus ou Cassiopée, une invitation à dîner ou un méchant potin. Peut-être parfois, quand, à l'imitation des princes persans qui, au dire du livre d'Esther, se faisaient lire les registres où étaient inscrits les noms de ceux de leurs sujets qui leur avaient témoigné du zèle, Madame de Guermantes consultait la liste des gens bien intentionnés. Elle s'était dit de moi, un à qui nous demanderons de venir dîner. Mais d'autres pensées l'avaient distraite. De soins tumultueux, un prince environné vers de nouveaux objets et sans cesse entraîné. Jusqu'au moment où elle m'avait aperçu seule, comme Mardochée, à la porte du palais. Et ma vue ayant rafraîchi sa mémoire, elle voulait, telle Assuérus, me combler de ses dons. Cependant, je dois dire qu'une surprise d'un genre opposé allait suivre celle que j'avais eue au moment où Madame de Guermantes m'avait invitée. Cette première surprise, comme j'avais trouvé plus modeste de ma part et plus reconnaissant de ne pas la dissimuler et d'exprimer au contraire avec exagération ce qu'elle avait de joyeux, Madame de Guermantes, qui se disposait à partir pour une dernière soirée, venait de me dire, presque comme une justification, et par peur que je ne susse pas bien qui elle était, pour avoir l'air si étonnée d'être invitée chez elle. « Vous savez que je suis la tante de Robert de Saint-Loup, qui vous aime beaucoup, et du reste nous nous sommes déjà vus ici. » En répondant que je le savais, j'ajoutais que je connaissais aussi Monsieur de Charlus, lequel avait été très bon pour moi à Balbec et à Paris. Madame de Guermantes parut étonnée, et ses regards semblèrent se reporter, comme pour une vérification, à une page déjà plus ancienne du livre intérieur. « Comment, vous connaissez Palamède ?» Ce prénom prenait dans la bouche de Madame de Guermantes une grande douceur à cause de la simplicité involontaire avec laquelle elle parlait d'un homme si brillant, mais qui n'était pour elle que son beau-frère et le cousin avec lequel elle avait été élevée. Et dans le gris confus qu'était pour moi la vie de la duchesse de Guermantes, ce nom de Palamède m'était comme la clarté des longues journées d'été où elle avait joué avec lui. Jeune fille, à Guermantes, au jardin. De plus, dans cette partie depuis longtemps écoulée de leur vie, Oriane de Guermantes et son cousin Palamède avaient été fort différents de ce qu'ils étaient devenus depuis. Monsieur de Charlus, notamment, tout entier livré à des goûts d'art qu'il avait si bien refrénés par la suite que je fus stupéfait d'apprendre que c'était par lui qu'avait été peint l'immense éventail d'iris jaunes et noirs que déployait en ce moment la duchesse. Elle eût pu aussi me montrer une petite sonatine qu'il avait autrefois composée pour elle. J'ignorais absolument que le baron eut tous ses talents dont il ne parlait jamais. Disons en passant que M. de Charlus n'était pas enchanté que dans sa famille on l'appelât Palamède. Pour Mémé, on eût pu comprendre encore que cela ne lui plût pas. Ces stupides abréviations sont un signe de l'incompréhension que l'aristocratie a de sa propre poésie. Le judaïsme a d'ailleurs la même, puisqu'un neveu de Lady Rufus Israël, qui s'appelait Moïse, était couramment appelé dans le monde Momo. En même temps que de sa préoccupation de ne pas avoir l'air d'attacher d'importance à ce qui est aristocratique. Or, M. de Charlus avait sur ce point plus d'imagination poétique et plus d'orgueil exhibé. Mais la raison qui lui faisait peu goûter Mémé n'était pas celle-là, puisqu'elle s'étendait aussi au beau pré nom de Palamède. La vérité est que, se jugeant, se sachant d'une famille princière, il aurait voulu que son frère et sa belle-sœur disent de lui « Charlus », comme la reine Marie-Amélie ou le duc d'Orléans pouvaient dire de leurs fils, petits-fils, neveux et frères « Joinville, Nemours, Chartres, Paris ». « Quel cachotier que ce Mémé ! » s'écria-t-elle. « Nous lui avons parlé longuement de vous. Il nous a dit qu'il serait très heureux de faire votre connaissance, absolument comme s'il ne vous avait jamais vu. Avouez qu'il est drôle, et ce qui n'est pas très gentil de ma part à dire d'un beau-frère que j'adore et dont j'admire la rare valeur, par moments un peu fou. » Je fus très frappée de ce mot appliqué à M. de Charlus, et je me dis que cette demi-folie expliquait peut-être certaines choses. Par exemple, qu'il lui parut si enchanté du projet de demander à Bloch de battre sa propre mère. Je m'avisai que non seulement par les choses qu'il disait, mais par la manière dont il les disait, M. de Charlus était un peu fou. La première fois qu'on entend un avocat ou un acteur, on est surpris de leur ton tellement différent de la conversation. Mais comme on se rend compte que tout le monde trouve cela tout naturel, on ne dit rien aux autres, on ne se dit rien à soi-même, on se contente d'apprécier le degré de talent. Tout au plus, pense-t-on d'un acteur du théâtre français, pourquoi, au lieu de laisser retomber son bras levé, l'a-t-il fait descendre par petites saccades coupées de repos pendant au moins 10 minutes? Ou d'un laborie, pourquoi, dès qu'il a ouvert la bouche, a-t-il émis ses sons tragiques, inattendus, pour dire la chose la plus simple? Mais, comme tout le monde admet cela a priori, on n'est pas choqué. De même, en y réfléchissant, on se disait que M. de Charlus parlait de soi avec emphase, sur un ton qui n'était nullement celui du débit ordinaire. Il semblait qu'on eût dû à toute minute lui dire « Mais pourquoi criez-vous si fort? Pourquoi êtes-vous si insolent ?» Seulement, tout le monde semblait bien avoir admis tacitement que c'était bien ainsi, et on entrait dans la ronde qui lui faisait fête pendant qu'il pérorait. Mais certainement, à de certains moments, un étranger eût cru entendre crier un dément. « Mais vous êtes sûr que vous ne confondez pas? Que vous parlez bien de mon beau-frère, Palamède ?» ajouta la duchesse avec une légère impertinence qui se greffait chez elle sur la simplicité. Je répondis que j'étais absolument sûre et qu'il fallait que M. de Charlus eût mal entendu mon nom. « Eh bien, je vous quitte, » me dit comme à regret Madame de Guermantes. « Il faut que j'aille une seconde chez la princesse de Ligne. Vous n'y allez pas? Non, vous n'aimez pas le monde. Vous avez bien raison. C'est assommant. Si je n'étais pas obligée. Mais c'est ma cousine, ce ne serait pas gentil. Je regrette égoïstement, pour moi, parce que j'aurais pu vous conduire, même vous ramener. Alors, je vous dis au revoir, et je me réjouis pour mercredi. » Que M. de Charlus eût rougi de moi devant M. d'Argencourt, passe encore. Mais qu'à sa propre belle-sœur, et qui avait une si haute idée de lui, il nia me connaître, fait si naturel puisque je connaissais à la fois sa tante et son neveu, c'est ce que je ne pouvais comprendre. Je terminerai ceci en disant qu'à un certain point de vue, il y avait chez Madame de Guermantes une véritable grandeur qui consistait à effacer entièrement tout ce que d'autres n'eussent qu'incomplètement oublié. Elle ne m'eût jamais rencontré la harcelant, la suivant, la pistant dans ses promenades matinales. Elle n'eût jamais répondu à mon salut quotidien avec une impatience excédée. Elle n'eût jamais envoyé promener Saint-Loup quand il l'avait supplié de m'inviter. Qu'elle n'aurait pas pu avoir avec moi des façons plus noblement et naturellement aimables. Non seulement elle ne s'attardait pas à des explications rétrospectives, à des demi-mots, à des sourires ambigus, à des sous-entendus. Non seulement elle avait dans son affabilité actuelle, sans retours en arrière, sans réticence, quelque chose d'aussi fièrement rectiligne que sa majestueuse stature, mais les griefs qu'elle avait pu ressentir contre quelqu'un dans le passé étaient si entièrement réduits en cendres, ces cendres étaient elles-mêmes rejetées si loin de sa mémoire, ou tout au moins de sa manière d'être, qu'à regarder son visage, chaque fois qu'elle avait à traiter par la plus belle des simplifications, ce qui chez tant d'autres eût été prétexte à des restes de froideur, à des récriminations, on avait l'impression d'une sorte de purification. Mais j'étais surpris de la modification qui s'était opérée en elle à mon égard. Combien je l'étais plus d'en trouver en moi une tellement plus grande au sien. N'y avait-il pas eu un moment où je ne reprenais vie et force que si j'avais, échafaudant toujours de nouveaux projets, cherché quelqu'un qui me ferait recevoir par elle, et après ce premier bonheur, en procurerait bien d'autres à mon cœur de plus en plus exigeants. C'était l'impossibilité de rien trouver qui m'avait fait partir à Doncières, voir Robert de Saint-Loup. Et maintenant, c'était bien par les conséquences dérivant d'une lettre de lui que j'étais agitée, mais à cause de Madame de Stermaria, et non de Madame de Guermantes. Ajoutons, pour en finir avec cette soirée, qu'il s'y passa un fait, démenti quelques jours après, qui ne laissa pas de m'étonner, me brouilla pour quelque temps avec Bloch, et qui constitue en soi une de ces curieuses contradictions dont on va trouver l'explication à la fin de ce volume 1, Sodome. Donc, chez Madame de Villeparisis, Bloch ne cessa de me vanter l'air d'amabilité de Monsieur de Charlus, lequel Charlus, quand il le rencontrait dans la rue, le regardait dans les yeux comme s'il le connaissait, avait envie de le connaître, savait très bien qui il était. J'en souris d'abord, Bloch s'étant exprimé avec tant de violence à Balbec sur le compte du même Monsieur de Charlus. Et je pensais simplement que Bloch, à l'instar de son père pour Bergotte, connaissait le baron sans le connaître, et que ce qu'il prenait pour un regard aimable était un regard distrait. Mais enfin, Bloch vint à tant de précision et sembla si certain qu'à deux ou trois reprises Monsieur de Charlus avait voulu l'aborder que, me rappelant que j'avais parlé de mon camarade au baron, lequel m'avait justement, en revenant d'une visite chez Madame de Villeparisis, posé sur lui diverses questions, je fis la supposition que Bloch ne mentait pas, que Monsieur de Charlus avait appris son nom, qu'il était mon ami, etc. Aussi, quelque temps après, au théâtre, je demandai à Monsieur de Charlus de lui présenter Bloch, et sur son acquiescement, allai le chercher. Mais dès que Monsieur de Charlus l'aperçut, un étonnement aussitôt réprimé se peignit sur sa figure, où il fut remplacé par une étincelante fureur. Non seulement il ne tendit pas la main à Bloch, mais chaque fois que celui-ci lui adressa la parole, il lui répondit de l'air le plus insolent, d'une voix irritée et blessante. De sorte que Bloch, qui, à ce qu'il disait, n'avait eu jusque-là du baron que des sourires, crut que je l'avais non pas recommandé, mais desservi pendant le court entretien où, sachant le goût de Monsieur de Charlus pour les protocoles, Je lui avais parlé de mon camarade avant de l'amener à lui. Bloch nous quitta, éreinté comme qui a voulu monter un cheval tout le temps prêt à prendre le mort aux dents, ou nager contre des vagues qui vous rejettent sans cesse sur le galet, et ne me regarda pas de 6 mois.